Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nos lectures en liberté continuent donc avec la suite du roman de Alice Fernet, Grâce et dénuement. Missy a dit « Il n'y a plus assez d'eau ». Elle était si lasse qu'elle ne cria pas contre les enfants qui en avaient renversé partout. Esther proposa de l'emmener en voiture à la pompe. « C'est pas interdit d'aller à cette pompe ?» dit-elle. « Bien sûr que si, » murmura Misia. « Mais si on obéissait à tout, on serait mort depuis longtemps. » À ces mots, elle hissa dans le coffre un énorme pot à lait. Esther arrêta sa voiture et porta le pot jusqu'à la pompe. « C'est déjà lourd quand c'est vide, » dit-elle. « Comment fait-on quand c'est rempli ?» Misia eut un rire très gai et sortit de sa jupe une clé. Elles attendirent devant le pot qui se remplissait. Misia regardait au-delà d'Esther. Elle avait ce visage d'où toute attention s'est retirée, si triste et silencieux qu'on aurait dit une jeune fille sourde et muette. « Pourquoi les hommes ne font-ils pas ce travail ?» demanda Esther. Misia haussa les épaules. L'eau débordait. Misia ferma la pompe et entreprit de rouler le bidon jusqu'à la voiture. Au retour, tout le monde était dehors. Les hommes revenaient d'une tournée, les femmes étaient là pour les accueillir, pour qu'il y eût quelqu'un devant qui parader un peu. Angéline avait ravivé le feu qui crépitait, à croire qu'elle avait trouvé du bois sec, mais ce devait être une cochonnerie de plus qui ne tarderait pas à les enfumer, se disait Esther. Misia sortit l'énorme pot du coffre. Lulu s'approcha, sans aider.
« Mais qu'est-ce qu'elle fout, la gadjo ?» dit-il à sa femme.
Le voyant mécontent, Esther s'en alla vers le feu. Elle se chauffa les mains en regardant autour d'elle. Du linge séchait sur la corde tendue entre les caravanes de Misia et Milena, des slips d'hommes dont les fonds étaient marrons et des soutiens-gorges qui avaient perdu leur blancheur. Nadia parlait à Mélanie. Milena donnait un morceau de pain à Carla et Michael. Les enfants coururent vers Esther.
« Elle est forte, ma mère !» dit Sandro.
« Oui, » dit Esther, « très forte. » Et lui, soudain assuré de quelque chose, met le poing sur sa taille et se déhanche vulgairement.
« Ouais, » dit-il, « et toi, t'es pas forte !»«
Arrête de dire des âneries !» dit Angéline à son petit-fils.
Il partit en faisant l'âne.
« I-a, i-a !»«
C'est bête à cet âge, les garçons, » dit Angéline. Esther sourit. À l'air un peu rêveur de la vieille, elle devinait que dans cette tête, on se demandait s'il arrivait qu'à un autre âge cela fût moins bête, un jeune homme. L'essentiel, elle voulait dire l'apparition et la disparition de la vie, se passait du côté des femmes. Les accouchements et les agonies, ça nous connaît, disait Angéline. Chez les hommes, on connaissait d'abord les femmes, leur allure et le désir qu'elles inspirent, ce qu'elles disent et ce qu'elles font, ce qu'elles refusent et comment elles cèdent.
Assieds-toi un peu, dit Angéline. Pourquoi il vient jamais avec toi, ton mari, dit-elle. En se laissant tomber sur sa grosse jupe.
« Il travaille, dit Esther, même s'il le voulait, il ne pourrait pas venir. »
Elle arrangeait son manteau autour de ses jambes pour avoir moins froid.
« Mais de toute manière, il ne veut pas venir, » dit Angéline.
« Je ne lui ai jamais demandé, » dit Esther. « Je n'ai pas envie qu'il vienne avec moi. »
« Vous êtes drôles, les jeunes, » dit Angéline.
« Il sait quelque chose à ce que tu viens faire ici ?» demanda-t-elle.
Esther allait répondre.
« Oui, il comprendrait bien qu'il venait lire des livres à des enfants qui n'en avaient pas, mais Angéline parlait toute seule. »
« Les maris, ça comprend jamais rien, » disait-elle.
« Forcément, ça dégoûte. » Quand on s'épouse, on croit qu'on sera moins seul, mais comme on se trompe, dit-elle, « Oh là là, oui !»
Elle eut un rire édenté.
« C'est tout le contraire qui se passe, et l'on est encore plus. C'est ça que j'ai mis le plus de temps à comprendre, dit-elle, en regardant Esther dans les yeux pour y trouver la même pensée. »
Mais cette fois-ci, elle ne la trouva pas.
Alors elle dit, « Le mien, il était bête, brave, mais bête. » Je ne sais même pas comment j'ai pu l'aimer.
« Parce que je l'ai aimé, » lui dit-elle.
La petite flamme était venue dans ses yeux.
Quand Angéline parlait des hommes, une brillance apparaissait dans le jaune, comme si le feu s'y était porté. Elle était plus attentive, vive et concentrée, sûre de son fait.
Lulu vint s'asseoir au bord du feu.
La vieille s'interrompit.
« De quoi vous parliez » dit-il.
« De choses qui ne te regardent pas, mon fils. » Mais elle se reprit. Comme si elle se disait que pour une fois, elle pouvait essayer d'éclaircir les idées d'un homme.
On parlait qu'on peut compter sur personne pour la gaieté, et surtout pas sur les maris.
Qu'on est seul. Et même quand on a ce qu'il faut pour l'amour, il faut se débrouiller avec sa tristesse.
Voilà ce qu'on disait, dit-elle.
Lulu se mit à rire.
C'est vrai, dit-il en regardant Esther, on attend que les autres vous aident à passer le moment noir, mais les autres peuvent rien.
Esther était glacée malgré le feu.
Pourquoi tu dis rien ? Dit Lulu.
« J'ai froid, j'en peux plus, » dit Esther.
« Bah, » dit Lulu, « rentre. »«
Elle est chauffée, ta maison ?» dit-il.
« Allez, rentre, » dit-il, sans attendre sa réponse. « Ça va, elle est chauffée, vas-y. »
Il parlait brutalement. « Gadjé !» lança-t-il.
Elle était assise sur le petit escalier que l'on dépliait à l'entrée des caravanes, la douce Nadia. Comme disait Simon, qu'en s'approchant au bord de sa folie sans y plonger, il devenait à la fois clairvoyant et familier. Les mains de Nadia reposaient sur le tablier de sa jupe tendue entre ses genoux écartés. Son visage, d'ordinaire aussi lisse qu'un galet de mer, paraissait plus las que lisse. Sa silhouette si menue émergeait d'un bain de brume. Le brouillard blanc du matin n'était pas encore dissipé. Le ciel, poussé par le vent, venait lécher la terre. Les nuées voulaient une étreinte et la terre restait muette. Nadia se frotta la tempe. L'idée de son mari dehors par ce temps la déprimait. Milena apportait un bol de café.
« Tais-toi, aujourd'hui, » dit Milena.
« Je supporte pas ce temps, » dit Nadia.
Milena se mit à rire, le rire simple qui découvrait ses dents. Elle dit « Tu détestes aussi l'été !»
Avec la chaleur, on ne gardait pas le beurre et Nadia se nourrissait de tartines.
Nadia sourit. C'était vrai. Elle n'aimait donc ni l'hiver ni l'été.
« Qu'est-ce que j'aime ?» se demanda-t-elle.
« Antonio, la musique et Mélanie, » pensa-t-elle. « J'aime Antonio. »
Antonio était encore à traîner dehors et sa femme savait quel cours il faisait au Gadjé. Il n'était pas rentré dormir. Elle ne s'était pas couchée. Elle se mit à pleurer. Misia berçait Jumbo en marchant de long en large. Il venait boire son lait et allait se recoucher. Misia avait toujours fait cela, pensa Nadia, endormir ses enfants dans ses bras. Misia était la douceur même. N'était-ce pas étrange que toutes les deux, pareillement rêveuses et tendres, eussent trouvé les époux les plus gaillards et gloutons de chair? Ils étaient sans cesse pleins de désirs. Angéline à ces deux garçons-là avait donné l'appétit qu'elle avait eu dans l'amour. Mais la différence entre les deux frères, pensa Nadia, c'était que Lulu ne désirait que sa femme. Ce que faisait Antonio, ils le savaient tous, car des maris étaient déjà venus pour se battre. « Putain de gadget !» disaient les gitans en crachant avec colère, et les maris repartaient. « Putain, putain !» criaient les frères. Mais Antonio usait encore son regard noir et son sourire à séduire des femmes, et parfois ils retroussaient leurs jupes courtes de gadget et poussaient son sexe dans le leur sans penser à rien qu'à ce qui lui enfondait dans cette sensation inouïe de douceur mouillée. Et là, dans cette humidité qu'il enlevait à lui-même, il oubliait jusqu'à la peine qu'il faisait à sa femme. Il aimait Nadia. Du moins le croyait-il, ce qui peut revenir au même. Aucune autre jamais ne lui avait inspiré de l'amour. En tout cas, pas celui-là qui permet de vivre ensemble sans se tuer. Il ne voulait pas d'autre épouse. « Nadia, disait-il, tu es un ange !» Il l'embrassait dans l'oreille, là même où il chuchotait « Tu es la plus douce !» Elle souriait, les baisers la chatouillaient. Il continuait de lui parler. « Qu'est-ce que ça voulait dire tout ça » pensait-elle. « Elle avait du linge à laver. Laisse !» lui disait-il en l'attirant. « Tu travailles trop. »« Faut bien !» disait-elle en s'abandonnant. « Viens !» soufflait-il, comme exténué d'envie. « Tu es bien malin, » murmura-t-elle, alanguie par les baisers et le désir qu'il faisait naître à force de l'effleurer avec l'insistance et le goût qui faisait de lui un amant. Doucement, il s'allongeait sur elle. « Tu es léger, » murmurait-elle. Il restait longtemps autour d'elle. Les enfants jouaient dehors, c'était le cœur de l'après-midi, la meilleure heure pour s'aimer. Il disait, « Les autres ne font plus l'amour comme ça à leur femme depuis longtemps. » C'était au point qu'elle aurait pu se croire unique, inégalable. Elle n'y croyait pas. Et cependant, elle était tout cela autant qu'on peut l'être. Il ne l'ignorait pas. « Tu es merveilleuse, » disait-il. Et il était sincère. « Alors pourquoi tu cours ?» disait-elle. « Mais c'est ma nature, » disait-il, sans se troubler, avec une froideur qui empoignait le cœur de Nadia. Elle n'avait sur lui pas plus de droit que de pouvoir. Et il concluait « Je suis un homme ?» Et ça le faisait rire. Il ne pouvait pas s'empêcher d'en rire. Et elle se mettait à pleurer. Il s'emportait aussitôt. Les femmes qui pleurnichent, il en avait assez. Il se levait. « Ne pars pas !» suppliait-elle. « J'arrête, c'est promis !» Elle séchait ses larmes en hâte, se blottissait dans les bras. Elle aurait voulu ne jamais bouger, rester ainsi collée contre son mari tout le jour. Il l'embrassait. « Pauvre Nadia !» pensait-il. Car il savait par cœur le chemin que dans le plaisir elle parcourait. Thank you.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Grâce et dénuement, Alice Fernet. Quand Nadia sentait contre la sienne la poitrine d'Antonio, alors il était sien, malgré tous les autres. Elle fermait les yeux. Son corps ondulait sous lui, sa bouche psalmodiait une sorte de chant très doux. Il la caressait sans se lasser. Elle avait le corps duveteux, d'une douceur insoupçonnable à l'œil. « Personne ne sait comme tu es douce, » disait-il. Et c'était peut-être le plus inadmissible qu'il fût ainsi ravi d'une exclusivité qu'il ne donnait pas. Non, nul n'aurait soupçonné à l'agitation et à la quête qui tenait Antonio qu'il avait dans son lit une amante. Angéline l'avait deviné, puisqu'elle percevait les animations secrètes de la chair. Elle savait qui avait ce don de la vibration, de l'accord et de l'alliance. Nadia l'avait, Misia aussi. Nadia était la féminité de l'amour, dont le désir lui venait une fluidité de l'outre, et de cet animal elle avait aussi la coquinerie et l'effroi. Antonio avait l'impression d'une femme à la fois lascive et mutine, qui savait jouer et se donner. Et cependant, il courait. « Il y a une chose que tu ne peux pas me donner, » disait-il à sa femme. « C'est quoi ? » demandait-elle effrayée. « La surprise, » répondait-il. Et c'était une sentence. Il voulait lui dire l'émoi de la primeur, le ravissement de la pudeur qui tombe, le trouble immense de la première nudité, un corps jamais vu et ses plus intimes gestes, et le visage inconnu des femmes dans l'amour quand il les faisait chanter sous lui, leur musique et leurs larmes, oui, il les faisait pleurer, comme elle, Nadia, qui parfois pleurait de plaisir, et différemment d'elle, car chacune était habillée d'une magie singulière. Il aurait pu expliquer cela. Mais Nadia n'avait pas envie de l'entendre. Les explications ne changeaient rien. « Quand je ne baiserai plus, » disait Antonio pour conclure, « quand je ne baiserai plus, » il faisait exprès de lui envoyer ce mot à la figure, prenait même plaisir à le lui dire, « j'aurais plus qu'à me flinguer. » Il le croyait. Et alors elle pleurait, séchait ses larmes pour ne pas le voir partir. Parfois, elle se laissait caresser encore, il pouvait recommencer indéfiniment. D'autres fois, se rhabillait pour aller voir ce que fabriquaient les enfants. D'autres fois, continuait de pleurer. Ils étaient un vieux couple. « Qui ne se détruit plus, qui ne se suffit plus, » disait Antonio en l'embrassant. Le mariage tzigane, c'est sur l'honneur. Une femme tzigane, elle supporte le mari comme il est, disait Nadia à Esther. Elle voyait que cette gadjé avait envie de comprendre. Et elle a de la chance quand il la bat pas et que la belle-mère est gentille. Esther ne savait que répondre. Et Nadia, toute frêle, si brune de peau et de cheveux, s'abandonnait à un sourire plus poignant que n'importe quel sanglot. Ce plissé extatique et douloureux qui est le sourire des saintes. Les autres d'ailleurs le disaient. Ce qui pouvait être une preuve, car il n'était ni tendre ni flatteur. « Nadia est une sainte !» lançait Misia lorsque Antonio manquait un repas. « Sainte Nadia !» disait Elina. « Moi, à sa place, j'en aurais cherché un autre depuis longtemps. »
Esther restait silencieuse au milieu de ses femmes. « Dis pas de conneries, » répondait Misia. « Elle a Mélanie. » Et alors, répliquait Elena avec une colère qui était la sienne, « Les enfants sont malheureux quand la mère n'a pas la vie qu'elle veut. » Elle se taisait quand elle voyait venir Angéline. « Chut » faisait-elle pour Esther avec son doigt devant la bouche. Esther acquiesçait. Misia riait. « Tu sais pas qu'elle répète pas. » Puis Angéline était là. Et avec elle, le silence des belles filles. « T'as pas fait la lecture ?» dit-elle à Esther. « Non, dit Esther, je suis seulement passée dire bonjour. »« C'est bien que tu sois là, dit Misia. »« Ouais, dit Milena, c'est vrai, c'est bien. » Elle n'avait que les mots des autres pour dire ce qu'elle pensait, ce qui était ce que pensait sa belle-sœur. Elle se leva. « Je vais te faire un café, dit-elle. »« Laisse, dit Esther, reste avec nous. » « Faut toujours qu'elle fasse quelque chose, » dit Misia. Les hommes arrivaient. Ils appelèrent Angelo. « Viens boire le café !» L'aîné des frères fumait seul près des camions et fit signe du bras. « Qu'on le laisse en paix !»« Je ne sais pas ce qu'il a, Angelo, » dit Moustique en se tournant vers sa mère. « Il parle plus, il veut tout le temps être seul. » Angéline ne savait rien. Pas plus que les autres, elle n'avait deviné le nœud d'image, d'amour et de silence qui se jouait de son fils. La vieille n'avait pas répondu. Elle attendait le café de Milena qui ne revenait plus. Angelo était tout encombré par l'amour d'Esther. Il était devenu ce rêve et n'était bon qu'à le répéter. La réalité n'avait plus de prise sur sa pensée. L'esprit s'occupait de ce désir malheureux parce qu'il n'y avait plus rien d'autre en sa vie que cela. Sa vie, croyait-il, comme beaucoup d'autres amants, ne pouvait se faire ou défaire que là, dans l'issue de l'amour qui l'habitait, le rongeait et le portait tout ensemble. Il oubliait jusqu'à la matière dont les jours pour lui à cet endroit de la terre étaient faits, et jusqu'au jour, jusqu'à l'endroit. Angelo, qu'est-ce que tu fous ? On t'attend depuis une heure, criaient les frères, avant de partir en tournée. Il montait dans le camion comme une marionnette. Il avait des histoires plein la tête, tous les mots que lisait Esther. Un meunier ne laissa pour tout bien à trois enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Esther lui racontait. « Tu rêves ou tu roupilles ?» disaient les frères. « Qu'est-ce que t'as encore aujourd'hui ? Ça y est, voilà que ça le reprend, sa rêverie. » D'abord, ils n'y pensèrent pas. Ils avaient souvent ri de le savoir sans femme. « C'est bizarre !» « Que ça lui manque pas, » disait Antonio. « Qu'est-ce que t'en sais que ça lui manque pas ?» disait Lulu. Puis, ce fut un fait admis, Angelo était le célibataire. Antonio eut bien un instant de clairvoyance, lui qui connaissait cette fièvre de désir éperdu. « Tu serais pas amoureux ?» dit-il à son frère. Mais l'autre resta si amorphe, sans passion, ni trémoussement, ni rougeur, qu'Antonio oublia. Et là, maintenant qu'ils étaient ensemble, l'idée revint par la bouche d'Elena. Elle dit « Il est peut-être amoureux, votre Angelo. » Elle s'était tournée vers Angéline avec un air fier, car tout de même elle était un peu garce, et on pouvait le sentir en l'écoutant. Elle avait envie que la vieille perdît aussi ce fils-là. La vieille ne prit pas la peine de répondre. Jumbo se mit à pleurer sur l'épaule de sa mère comme s'il sentait la tension. Esther regardait Misia. La peau de ses joues était couverte de taches ocre qui dessinaient des figures dentelées, semblables à des fleurs vénéneuses. On appelle ça des taches de grossesse, disait Anita en relevant le menton quand les autres demandaient pour l'embêter « Qu'est-ce qu'elle a, ta mère, sur la figure ?» quand Misia venait à s'en préoccuper sans que l'on sût pourquoi elle s'appliquait des épluchures de concombre trempées dans du fromage blanc. Pour le faire, elle se cachait. « On ne doit jamais gâcher la nourriture, » disait la vieille aux enfants. Angéline l'aurait injuriée. Mais Misia s'était confiée à Esther un jour qu'elle venait de se donner cette peine. « Pour se plaire un peu plus, » avait-elle dit, « parce que par moments c'est bizarre, on ne supporte plus la tête qu'on a. » Esther riait. « Les taches de grossesse, ça n'a rien de vilain, » dit-elle à Misia. « On est faite de traces, » disait Esther ce jour-là. Par terre, Jumbo avait tourné sa tête ronde vers elle. Les enfants sont sensibles aux voix. Il écoutait. « Les petits comprennent tout, » dit Esther en le regardant. « Même avant la parole, ils comprennent ce qu'on se dit. »« Tu comprends ce que je dis ?» dit-elle à l'enfant. « C'est pas possible, » dit la gitane. Esther la contemplait en souriant. « Si, c'est possible, » souffla-t-elle doucement à Misia, avec envie de la convaincre de cela. « Qu'ils saisissent récente la vérité des êtres, des mots, de la vie, même de la mort, et qu'ils n'oublient rien. » Misia écoutait, belle, sans apprêt. Un rat tirait de toutes ses dents sur l'imperméable d'Esther. Son couinement attira l'attention. Esther en apercevait qui filait sous les caravanes quand quelqu'un s'approchait. Il n'avait pas la témérité de celui-ci qui restait accroché au tissu. Deux minuscules perles noires étincelaient dans le gris terne du pelage. On aurait dit qu'il la regardait. Elle se leva pour le chasser. Et comme il restait suspendu sans lâcher prise, elle fut obligée de le faire tomber avec sa main, puis de lui donner des coups de pied. Et elle avait très peur de l'écraser. Un bref frémissement la prit. « C'en est plein, » dit Angéline, qui avait observé la scène, « et ils ont peur de rien. » Jumbo jouait par terre, assis entre les jambes de Misia, avec des pots de yaourt vides et un petit bâton. Misia passait et repassait sa main dans les cheveux bouclés de l'enfant, avec ce visage dont le regard a disparu dans un rêve. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Alice Fernet, Grâce et dénuement, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.